L'émission que vous vous apprêtez à écouter est une rediffusion.
Bonsoir à vous tous, chers auditeurs. Bienvenue dans l'émission franco-portugaise Rencontre lusophone, proposée par Radio Résonance sur la fréquence 96.9 et qui tous les samedis vous en apprend un peu plus sur le Portugal. Bonsoir Jeff.
Bonsoir, bonsoir à tous.
Nous sommes tous les deux aujourd'hui. Alors voilà, ma chronique culturelle de ce soir va porter sur un des plus grands écrivains portugais. Si je te dis, Essa de Queiroz, tu connais ?
Non, jamais entendu de parler.
Jamais.
Jamais, non. jamais.
Voilà. Donc peut-être que vous avez pensé, vous chers auditeurs, peut-être à ceux qui connaissent le Portugal, à Pessoa ou à Camões, non, que nenni. Il s'agit de Essa de Queiroz, un écrivain du 19e siècle, qui en plus de sa carrière d'écrivain, et Dieu sait s'il en a écrit beaucoup des livres, a mené en parallèle une vie de diplomate. En attendant, voici le lien, en lien avec l'actualité d'aujourd'hui, mon coup de gueule de ce soir.
Résonance 96.9.
Sur Rencontre lusophone, on n'est pas à l'abri d'un coup de gueule ou d'un coup de cœur. C'est la petite chronique. Aujourd'hui, Bourges a vécu une déferlante jaune. Un acte neuf de ce mouvement des Gilets jaunes décidé par le groupe La France en colère, qui avait prévu de délaisser Paris et qui a choisi Bourges comme point central et stratégique pour faciliter l'arrivée des manifestants de toute la France. On ne présente évidemment plus ce mouvement des Gilets jaunes, né chez nous en France et aux revendications multiples. Avec néanmoins un signe distinctif pour les manifestants, le port du gilet de sécurité, accessoire obligatoire dans les voitures de toute l'Europe. Malin. Et c'est justement ce gilet de ralliement accessible à tous qui a soudain donné l'idée à certains Portugais de se saisir de ce mouvement pour faire eux-mêmes des revendications. Selon le manifeste du groupe, à l'initiative de ce mouvement portugais, directement inspiré par les événements des dernières semaines en France, l'idée était de faire entendre le mécontentement ressenti à travers le Portugal. Et c'est ainsi que pendant les quelques jours qui ont précédé le fameux 21 décembre, les Coletes Amarelos ont fait planer une menace sur leur pays qui, il faut bien le dire, avait connu dernièrement plusieurs grèves et notamment chez les infirmiers, les dockers, les pompiers et les transports en commun. Les manifestants de cette première mobilisation, censés être suivis d'autres journées d'action, réclamaient des baisses d'impôts, des hausses de salaires, une diminution du prix des carburants et une amélioration du service public de santé. Mais voilà, le 21 décembre, cette manifestation portugaise, tant attendue, n'a pas rencontré le succès escompté. C'est bien simple, à Lisbonne, on comptait plus de policiers que de manifestants. Bon, c'est vrai, les manifestants ont bien provoqué de légères perturbations de la circulation routière à l'entrée des grandes villes du pays, mais c'est tout, pas plus que ça. Le mouvement portugais des Coletes Amarelos en est resté là. Total échec. Alors, oui, on se demande bien pourquoi ce mouvement contestataire n'a pas pris au Portugal. Et y aurait-il des raisons à ce flop ? Des raisons sociales ? Des raisons économiques ? Des raisons culturelles ? Eh bien, les trois, mon capitaine. Et voici l'analyse que j'en ai tirée. Une analyse complètement personnelle, évidemment, et avec laquelle vous êtes en droit de ne pas concorder. Mais voilà. Pour moi, la première des raisons, c'est que débuter une manifestation quasiment la veille de Noël, c'était presque mener ce mouvement à l'échec. Surtout lorsque l'on connaît le sens de la famille des Portugais. En France, c'est un peu différent car le mouvement ayant débuté un mois plus tôt, le 17 novembre, avec tous les samedis des actes à répétition, on peut dire que la mayonnaise avait déjà bien pris. Même si, il faut avouer que ce 21 décembre a été l'un des samedis qui a réuni le moins de monde à Paris. La deuxième raison, c'est qu'en 2011, lorsque la Troïka a demandé au Portugal de se serrer la ceinture, le peuple portugais a payé un lourd tribut et même beaucoup trop lourd. La cure d'austérité a été sans pitié pour la classe moyenne. Mais il semblerait qu'aujourd'hui, le pays reprend des couleurs. Car le gouvernement a baissé le taux d'impôt, la consommation est repartie et il semblerait même que la confiance soit en train de revenir. Eh oui. Même si ça lui coûte un peu plus cher, ce gouvernement portugais a tourné la page de l'austérité. Et contrairement à ce qui se passe aujourd'hui en France, ce sont les classes inférieures qui ont le plus profité de la reprise économique. Et puis il faut dire qu'au Portugal, les syndicats ont un peu plus de poids que chez nous en France. La troisième raison, c'est que les Français sont un peuple d'irréductibles gaulois, et puis c'est tout. Non mais sans rire, vous avez déjà vu, vous, en France, passer une réforme sans forceps? Et ne dit-on pas que la France est un pays irréformable? Bon, même si je ne suis pas tout à fait d'accord avec cette phrase très réductrice, je trouve qu'en France, quand même, tout est souvent un peu plus compliqué qu'au Portugal. Vous vous rappelez sûrement, comme moi, lorsqu'en 2013, le gouvernement français a voulu imposer l'écotaxe à travers l'installation de portiques. Rappelez-vous le mouvement des bonnets rouges qui a provoqué un tel levier de boucliers que des tas de portiques ont été brûlés. Eh bien, quasiment la même taxe a été imposée au Portugal et tout est passé comme une lettre à la poste. Aujourd'hui, lorsque vous voyez voyager au Portugal, vous avez deux options. Soit vous empruntez la route nationale en payant une taxe qui, entre nous, n'est pas donnée, soit vous empruntez les petites routes de campagne à condition de ne pas être pressé d'arriver. Et puis, c'est triste à dire, mais il y a une quatrième et dernière raison à l'échec du mouvement des Gilets jaunes au Portugal. C'est que là-bas, le peuple a repris confiance envers le gouvernement, alors que chez nous en France, il faut dire que nous n'avons pour l'instant aucune alternative crédible à la politique de Macron. En bref, le mouvement des Gilets jaunes n'a pas eu le même élan au Portugal qu'en France, car la situation politique actuelle a rendu quelque chose de très précieux à la population. Quelque chose qui en France semble désespérément perdu. L'espoir d'être entendu par ceux qui nous gouvernent.
Uma sentada que eu pago já do Brancotinho. Se houver estica, eu fico por cá. Se tem má pinta, dá-lhe um apito e põe-no a andar. De espada à cinta, já creio que é rei da quendala em mar. Não me obriguem a vir para a rua a gritar, que é já tempo. Embalar a trouxa e zarpar.
già tempo di imballare atroce e zarpar.
L'heure de la chronique culturelle
de Rencontre Lusophone.
Cézek Afonso Vagnon-Machcinco. Alors, dans la chronique culturelle de ce soir, j'aimerais vous faire connaître l'un des romanciers portugais les plus connus. Et non, il ne s'agit pas ni de Fernando Pessoa, ni de Luís de Camões, mais on n'en est pas très loin, puisque l'écrivain qui va occuper cet espace culturel est le troisième homme de la Trinité du Panthéon littéraire portugais, composé par Pessoa, Camões et Eça de Queiroz, bien sûr, puisque c'est de lui dont il s'agit. Et oui, Eça de Queiroz est et a toujours été reconnu par ses pairs comme le maître du roman portugais du XIXe siècle. Et je dirais même, sans vouloir être trop chauvine, que Eça de Queiroz a été l'un des plus grands romanciers de la seconde moitié du XIXe siècle au monde. De son vrai grand nom, José María Eça de Queiroz, il est né d'un couple illégitime en 1845 à Povo do Varzim, une petite ville portuaire du nord du Portugal. Son père était magistrat, sa mère issue de l'aristocratie du nord du pays. Fruit de ses amours illégitimes, le jeune José María sera donc soigneusement caché et élevé par ses grands-parents. Mais ses parents finiront par finalement se marier. Cependant, les apparences étant les apparences, il est hors de question pour ces gens bien nés de la bourgeoisie portugaise de reconnaître cet enfant né hors mariage. José María continuera donc à visiter ses parents, toujours en cachette. Et ne sera légitimement reconnu par ces derniers qu'à l'occasion de son propre mariage en 1886, alors qu'il avait 41 ans. Cette phase plutôt importante de sa vie lui laissera évidemment une certaine amertume dont il se servira plus tard en tant qu'écrivain, puisque c'est avec une plume très acerbe et aiguisée qu'il décrira plus tard cette bourgeoisie hypocrite qui ne songe qu'à préserver un honneur de façade. En attendant, comme je vous le disais tout à l'heure, le jeune José María vit avec ses grands-parents dans un petit village près d'Aveiro. À 10 ans, il entre au collège de Lapa, à Porto, où il restera jusqu'à son entrée à l'université. À 16 ans, il commence sa première année de droit à l'université de Coimbra. C'est là qu'il connaîtra tous les intellectuels qu'il côtoiera plus tard, et avec lui, avec qui il fondera un cercle littéraire qu'ils ont appelé les Conférences du Casino. Avec tous les autres, poètes et écrivains, ils refaisaient le monde, ils admiraient Garibaldi, le père de la patrie italienne, et soutenaient la Commune de Paris, qui était en quelque sorte les prémices du mouvement communiste. Avec lui, était en train de naître à cette grande époque une nouvelle génération d'écrivains, de poètes, de chercheurs et d'historiens à l'œil très acerbe et très orienté vers la réalité et la critique sociale. « À 21 ans, à la fin de ses études, il s'installe à Lisbonne et commence à se faire connaître dans la Gazette du Portugal, où il publie plusieurs textes romanesques. Un an après, à 22 ans, il part exercer le métier d'avocat à Évora, où il fonde une revue d'opposition au gouvernement qu'il appellera « Distrito de Évora ». Et ainsi, pendant quelques années, il fera le va-et-vient entre Lisbonne et Évora et sera même nommé pendant quelques mois sous-consul de Leiria. Entre 1869 et 1870, il part faire un voyage d'un an à Malte, en Terre Sainte et en Égypte. Un séjour qui lui permettra d'assister à l'inauguration du canal de Suez et d'introduire dans ses horizons culturels, encore romantiques, de nouvelles réalités qui changeront plus tard son écriture. En devenant un fervent adversaire du romantisme, il sera finalement dans son pays l'initiateur du réalisme littéraire. Encore relativement jeune, à l'âge de 37 ans, il entre dans la diplomatie et est nommé consul à Cuba. Deux ans après, il sera en poste à Newcastle et à Bristol, où il passera 4 années de sa vie. À 43 ans, il sera nommé consul à Paris. Il vivra alors en France, où il restera jusqu'à sa mort en 1900 à Neuilly-sur-Seine, au 38 avenue du Roule. Il avait 55 ans.
A noite passada, acordei com teu beijo. Descias o dor, eu fui esperar-te ao tejo. Vinhas numa barca que não vi passar. Corri pela margem, à beira do mar. Até que te vi num castelo de areia. Cantavas, sou gaivota e fui sereia. Rimo de ti, então por que não voas? E então tu olhaste, depois sorriste. Abriste a janela e voaste. A noite passada fui passear no mar. A viola irmã cuidou de me arrastar. Chegado ao mar alto, abriu-se em dois o mundo. Olhei para baixo, dormias lá no fundo. Falta-me o pé, senti que me afundava. Por entre as algas teu cabelo boiava. A lua cheia escureceu nas águas. E então falamos, e então dissemos: aqui vivemos muitos anos. A noite passada um perdão ruiu. Pela fresta aberta o meu peito fugiu. Estavas do outro lado a tricotar janelas. Vias-me em segredo ao debruçar-te nelas. Cheguei-me a ti, disse baixinho lá. Toquei-te no ombro,
e a marca ficam lá. O sol inteiro caiu entre os montes e então tu olhaste, depois sorriste. Disseste ainda bem que voltaste.
C'était Serge Gooding dans sa chanson « À Noite Passade à la nuit dernière ». Et le lien est fait avec l'objet de la chronique culturelle d'aujourd'hui, puisque juste avant cet intermède musical, je vous parlais de Eça de Queiroz, le grand romancier portugais du 19e, qui a longtemps vécu à Paris en tant que consul du Portugal. Eh bien, figurez-vous que Serge Gooding s'est lui aussi exilé à Paris, mais pour d'autres raisons, pour des raisons politiques. C'était avant la révolution des œillets, pour échapper à la guerre coloniale. En deuxième partie, j'en profiterai d'ailleurs pour vous parler de tous ces artistes et auteurs portugais qui ont très souvent retrouvé refuge en France, et notamment à Paris, et pour des raisons très diverses. Ce sera tout à l'heure, mais pour l'instant, revenons à Eça de Queiroz et à son œuvre. Eça de Queiroz était donc un écrivain du dernier tiers du 19e. C'est d'ailleurs lui qui a inauguré le réalisme portugais en réaction au romantisme de l'époque. En 1871, il anime une conférence intitulée « A Nova Literatura » où il expose sa thèse du réalisme comme un art. Tout en préparant le concours ouvert par le ministère des Affaires étrangères pour entrer dans la diplomatie, il entame dès 1870, à l'âge de 35 ans, une carrière autrement brillante, celle du maître du nouveau roman portugais, prônant le réalisme en réaction contre le romantisme. Son premier roman sortira en 1876. Ce sera « Le crime do Padre Amaro », un roman qui passera presque inaperçu. Deux ans plus tard, le succès du livre « Cousin Basilio » lui donnera des ailes. Il déploiera alors une énorme activité créatrice et donnera une nouvelle version à sa première œuvre « Le crime du Padre Amaro ». Il écrira également de multiples chroniques dans des gazettes et des journaux. Dans ses œuvres, on décèle son admiration pour Flaubert et Zola, mais avec son propre style très personnel. Il faut dire que Eça de Queiroz a toujours été un grand admirateur de la littérature française de son époque et notamment de Flaubert, dont il admire le style d'écriture très personnel, précis, mais quelque peu cynique. Il aime sa prose à la fois élégante, idiomatique et unique. Mais un jour à Paris, il rencontre Zola, de qui il déclare l'estimer au-dessus de Flaubert, qui avait pourtant été jusque-là son maître. Mais tout comme Zola, Eça de Queiroz possède le secret de faire vivant. En parlant de lui, il disait cette phrase « Mes romans sont français, comme moi, en presque tout, sauf un fond sincère de tristesse lyrique, un goût dépravé pour le fado et le juste amour de la morue. »
Lá porque tens cinco pedras num anel de estimação. como a pedra do castor. Não errava a pontaria como a pedra do castor. Mas não passes sorridente, a ladear satisfeito. Mas não passes sorridente, a ladear satisfeito. Pois hei de chamar-te a pedra pelo mal que me tens feito. Pois hei de chamar-te a pedra pelo mal que me tens feito. E hás de ficar convencido da afirmação consagrada. E hás de ficar convencido da afirmação consagrada. Quem tem telhados de vidro não deve andar à pedrada. Quem tem telhados de vidro não deve andar à pedrada.
Nous venons d'écouter La Portée 5 Pedras na Mão de Teresa Salgueiro et Lusitânia Ensemble. Et sachez qu'en musique de fond de cette chronique, vous écoutez depuis le début l'opus 142 de Schubert, interprété au piano par Maria João Pires, la grande pianiste portugaise qui, il y a quelques mois, a fait ses adieux à la scène internationale. Mais revenons à Eset Queiroz pour dire que c'était un grand maître de l'écriture. Observateur impitoyable, fustigeant le vice et l'hypocrisie, souvent intellectuellement proche d'un certain anarchisme, Eset Queiroz fut aussi vigoureusement critiqué par ceux aux dépens de qui il exerçait son ironie qu'admiré dans le monde entier. Son œuvre se compose essentiellement de romans et de nouvelles où le réalisme descriptif très proche de celui de Zola s'allie à une inépuisable verve satirique. Entre 1874 et 1888, Eset Queiroz passera 14 ans de sa vie à Newcastle et à Bristol où il exercera en tant que consul. Le climat de l'Angleterre dont il se plaint dans ses lettres l'amène à séjourner de temps en temps en France. Et voici qu'en octobre 1879, sa correspondance est datée d'Angers, dans le Maine-et-Loire. Et là, petit clin d'œil à nos auditeurs de Montreux-Juigné, toujours dans le Maine-et-Loire, on sait que Eset Queiroz est descendu à l'hôtel du Cheval Blanc, le plus aristocratique de la ville, signalé dans tous les guides et renommé pour sa cuisine. Et puis, les années passant, S suit le cours fatal des choses. Il écrit, il est diplomate, il voyage. En 1886, il fait un mariage aristocratique et mourra finalement sans avoir pu élaborer l'œuvre de sa vie qu'il voulait intituler « Scène de la vie portugaise ». C'était son projet de roman intégral à la manière de la comédie humaine. Durant toute sa vie, jamais S n'a jamais renié ses idéaux, ni n'a oublié la cruauté des conventions sociales. Ses parents, mariés après sa naissance, et qui pendant toute sa jeunesse l'ont toujours tenu à l'écart de leur vie. Il a toujours défendu ses idéaux sociaux et humanistes. Lorsqu'il était consul à La Havane, il avait pris parti pour les coulisses, ces travailleurs agricoles chinois exploités par les riches seigneurs territoriaux. Lors de la recondamnation de Dreyfus, il avait déçu avoir perdu son vieil amour latin pour la France. Rappelez-vous d'ailleurs le coup d'éclat de la lettre J'accuse, écrite par son ami Zola, où il attaquait violemment l'état-major de l'armée coupable, selon lui, d'avoir condamné Dreyfus sans preuve. À Paris, où il vécut ses dernières années, S. ressentait la nostalgie d'un Portugal bucolique. Il ne s'agissait pas d'une réaction, juste d'un retour impossible, un peu comme un regret. Après avoir beaucoup voyagé, c'est à Paris, à l'aube du XXe siècle, qu'il finira ses jours. Aujourd'hui, Eset Queiroz est enterré au cimetière de Santa Cruz do Douro, dans un petit village de montagne du nord du Portugal. un village qu'il avait immortalisé dans son roman 202 Champs-Élysées sous le nom de Tormes. Nous venons d'écouter Non canto porque sogno, une superbe chanson chantée en canon par les grands Fausto et Zeca Afonso. Tout à l'heure, juste avant cette pause musicale, rappelez-vous, je vous ai dit que S. Etkellogue avait séjourné dans le Maine-et-Loire à Angers. Mais pourquoi Angers ? Et pourquoi, surtout, est-il été arrivé dans cette ville? Eh bien, on pense que Etkellogue devait s'y rendre en forte bonne compagnie, en fort bonne compagnie. Mais une femme ne peut pas expliquer ses séjours angevins fréquents et prolongés. Le premier était à l'automne de 1879, un autre en janvier 1880, un autre en juin-juillet de la même année, à nouveau en mai-juin 1882, et de mars à mai de l'année 1884. Et pourquoi avoir choisi Angers tellement à l'écart de ses circuits habituels? Ce n'est pas vraiment pour la douceur du climat, alors que l'on sait que l'hiver de 1879-1880 a été l'un des plus rigoureux du siècle. Pour l'agrément de la ville alors? On ne sait pas. Angers, en plus, n'avait à l'époque qu'une importance toute moyenne. Et on sait en plus qu'en 1879 encore, au moment où Etkellogue découvre Angers, le centre de la ville n'était qu'un gigantesque chantier de part et d'autre de la place du ralliement encore inachevé. Mais alors, Qu'est-ce qui a donc poussé le consul écrivain à y résider? À y écrire une partie de son conte fantastique, Le Mandarin, parfaitement daté d'Angers en juin 1880. Eh bien, ce qu'on sait, c'est que dans ses écrits, il évoque une belle Angevine. Et cette belle Angevine, on sait qu'elle a été son égérie pendant quelques années. Mais qui était-elle en réalité? La réponse à cette question tient en réalité en 4 photos découvertes dans les archives personnelles de l'écrivain. Des clichés signés d'un des plus célèbres photographes angevins d'alors. Il représente une femme jeune, distinguée et élégante, seule ou en compagnie d'Esset Queiroz et de son frère Alberto. Sur l'un d'eux, elle tient bien en évidence une lettre, probablement un témoignage de la correspondance nourrie que lui adressait l'écrivain, mais aucune identification de nom ne permet d'identifier cette belle angevine. Ce que l'on sait par contre, c'est qu'une lettre datée du 26 mai 1884 semble clore la série des correspondances angevines de l'écrivain. Il ne reviendra plus jamais dans cette ville. Dans ses lettres, plus jamais il ne mentionnera la belle angevine. Et en février 1886, il épousera la sœur d'un de ses meilleurs amis.
Vendaval passou, nada mais resta. A nau do meu amor tem novo rumo, igual a tudo aquilo que não presta. O amor que me prendeu desfez-se em fumo. Navego agora em mar de calmaria, ao sabor da maré, verdes águas, ao leme, o esquecimento e a alegria, vão deixando para trás as minhas mágoas. Para onde vou, não sei. Farei, sei lá. Só sei que me encontrei e que eu sou eu, enfim. E sei que ninguém mais rirá de mim. Longe no cais ficou a tua imagem. Mal a distingo já esmaecida. Ao largo, alegrar-me na viagem. Vão andorinhas de paz, de nova vida. Sigo tranquilo o rumo da esperança, buscando aquela paz apetecida. Para ti eu fui um lago de bonança. Ai, tu vendaval na minha vida. Para onde vou, não sei. O que farei, sei lá. Só sei que me encontrei e que eu sou eu, enfim. E sei que ninguém mais rirá de mim.
C'était Vendaval, chanté par Camanet et joué par le duo Dead Combo. Comme je vous le disais tout à l'heure, Enced Queiroz a introduit le naturalisme dans la littérature portugaise après avoir beaucoup fréquenté Paris, et il semblerait que ses influences soient d'ailleurs surtout françaises. Son écriture est fluide, musicale, avec des descriptions efficaces et sans lourdeur, avec un humour et une certaine tendresse mêlée d'une touche de dérision et d'ironie. Queiroz est parfois surnommé le Zola portugais. À vrai dire, son œuvre semble plus inspirée par l'esprit et même le style de Flaubert, qu'il admirait beaucoup. Cependant, Zola avait décrit son travail comme étant meilleur que celui de Flaubert. À la lecture d'un de ses meilleurs romans, La Capitale, on sent d'ailleurs nettement cette influence flaubertienne. Ce roman, La Capitale, évoque la jeunesse estudiantine de Coimbra, les débuts du personnage principal dans le journalisme, ses engagements, ses errements. Cette époque charnière de la vie d'un jeune homme où tout semble possible, où l'horizon est largement ouvert, juste avant les premières grosses désillusions de la vie. Évidemment, les séjours de Enced Queiroz en Angleterre, à La Havane, aux États-Unis, lui apporte une vision internationale et font conjurer d'autres types d'influences dans son œuvre. Mais il faut surtout voir son génie propre, la pertinence de ses observations, de son regard sur les choses, l'art de brosser une scène, de savoir appliquer une remarque, le plaisir du récit, la distance ironique unique. Il sera également influencé par l'écrivain italien Ferdinando Petruccelli della Gattina. Son roman Reliquia présenterait d'ailleurs de fortes similitudes avec les mémoires de Judas, écrits par l'italien, à tel point que certains érudits ont accusé l'auteur portugais de plagiat, les vilains. Ses écrits journalistiques ont eux aussi été souvent très critiques vis-à-vis de l'impérialisme des grandes puissances, dont l'Angleterre, mais aussi vis-à-vis de son propre pays natal, dont la décadence sur le plan de l'influence internationale l'inquiétait. Son regard sur la France était si aigu qu'il est toujours aussi pertinent un siècle plus tard. Pour preuve, son roman « Les lettres de Paris ».
Canto assim esta vida a correr. Eu sei que é pouco e não consola nem cozida portuguesa sequer. Quem canta sempre se levanta, calados é que podemos cair. Com vinho molha-se a garganta se a lua nova está para subir. Que atrás dos tempos vêm tempos e outros tempos hão de vir. Que atrás dos tempos vêm tempos e outros tempos hão de vir. Eu sei de histórias verdadeiras, umas belas e outras tristes de assombrar. Marinheiro morto em terra em luta por melhor vida no mar. Da velha criada despedida que enlouqueceu e se pôs a cantar. E do trapeiro da avenida mal dormido se pôs a ouvir. Que atrás dos tempos vêm tempos e outros tempos hão de vir. Que atrás dos tempos vêm tempos e outros tempos hão de vir. Sei de vitórias e derrotas nesta luta que vamos vencer. Se quem trabalha não se esgota, tem seu salário sempre a descer. Olha a polícia, olha o talher, olha o preço da vida a subir. Mas quem mal faz por mal espera, o tirano fez janela para fugir. Que atrás dos tempos vêm tempos e outros tempos hão de vir. Que atrás dos tempos vêm tempos e outros tempos hão de vir. Mas esse tempo que há de vir não se espera como a noite espera o dia. Nasce da força que transpira de braços e pernas em harmonia. Já basta tanta desgraça que a gente tem no peito a cair. Não é do povo nem da raça, mas do modo como vês o porvir. Que atrás dos tempos vêm tempos e outros tempos hão de vir. Que atrás dos tempos vêm tempos e outros tempos hão de vir. Que atrás dos tempos vêm tempos e outros tempos hão de vir. Que atrás dos tempos vêm tempos e outros tempos hão de vir.
C'était « Atrás dos tempos » de Faust, que l'on écoute pour la deuxième fois ce soir, mais quand on aime, on ne compte pas. Revenons à Eset Queiroz. De tous les innombrables romans écrits par Eset Queiroz, on peut dire que son œuvre « Les Mayas » ont été le livre de sa vie. Ce livre Rouge Maille, paru en 1888, a été indubitablement son chef-d'œuvre. Il appartient au genre des romans cycliques que l'on suit, dont l'on suit le destin non seulement d'une personne, mais d'une famille tout entière. Le nœud de l'action est une sulfureuse histoire d'amour dans le goût romantique, mais le grand intérêt du récit est ailleurs. Il est dans la peinture d'une société bourgeoise décadente, dans l'évocation de la ville de Lisbonne, qu'arpente le héros Carlos de Maia de la rue de Janelas Verdes jusqu'au Chiado. Enfin, dans le personnage d'Aigue, le type parfait du portugais cultivé, hyper conscient, cosmopolite, enclin à dénigrer son pays auquel il est profondément attaché, comme est-ce d'ailleurs lui-même. Ce livre est à la fois l'histoire d'une passion fatale, une peinture parfaite des mœurs de l'époque. Son rythme rappelle les romans anglais par son style à la fois lumineux, attendri et ironique. Tout comme Pessoa, mais d'une façon complètement différente, Eset Queiroz a immortalisé Lisbonne dans la littérature.
Trouxeste o olhar baço entre a tristeza e o cansaço. Dizes tudo aquilo que eu já sei. Errei, mas eu também não prometi a ninguém ser eternamente a solução.
Esqueceste a compaixão, há pouco espaço para o perdão. Nem sei como te pedir. Tremeu a tua voz a oscilar entre o ficar e a seguir.
Tu chamaste-me traidor, mas nem me importa esse teu dedo acusador.
Pois sem rodeios sei bem que apontar é feio, mas
desapontar-te é pior.
Thank you.
perdeu-se o nosso espaço, agora entrega o embaraço. Mordeste o lábio, deste um passo atrás.
Caminhas contrafeita, como quem chama e rejeita, no teu jeito inocente de querer paz.
Ficamos sem guião neste jogo de limão,
em que se um desistir o outro perde.
Eu sinto-me tão mal que em minha culpa corre e ferve.
De nada serve. Tu chamaste-me traidor, mas nem me importa esse teu dedo acusador.
Pois sem rodeios, sei bem que apontar é feio, mas
desapontar-te é pior. Tu chamaste-me traidor,
mas nem me importa esse teu dedo acusador.
Pois sem rodeios, sei bem que apontar é feio, mas desapontar-te é pior. Desapontar-te é pior.
C'était Aneki et Georges Palm avec leur chanson Apontado de Defeio. Montrer du doigt, ce n'est pas très beau. Et pour terminer cette chronique et pour rebondir sur l'amour d'Elsa Queiroz pour la France, voici maintenant un petit topo sur les poètes portugais immigrés ou exilés à Paris, et Dieu sait s'il y en a eu beaucoup. En fait, ce fait d'histoire a toujours été une constante dans l'histoire des relations franco-portugaises. Les premiers exils ont commencé avec la contre-révolution absolutiste du Portugal qui avait poussé à s'exiler des écrivains comme Alexandre Herculano ou Almeida Garrett. Et c'est précisément à Paris qu'Almeida Garrett, cet homme politique, poète, romancier et auteur dramatique, publia en 1825 le recueil de poèmes Camões, devenu l'acte de naissance du romantisme portugais. Plus tard, en pleine effervescence moderniste, arrive à Paris le poète Mário de Sá Carneiro, autre figure importante des lettres portugaises. Tous ces auteurs ont bien évidemment écrit en France comme au Portugal. Et c'est ainsi que se sont toujours tissés des dialogues poétiques entre la France et le Portugal. Les raisons de leur départ sont connues. Ils ont fui tout d'abord un régime absolutiste, puis dans les années 60, un pays engagé dans une longue guerre coloniale, opprimé par la dictature salazariste et ruiné économiquement. C'est dans ce contexte politique et social que certains éléments de la littérature universelle, tels que l'évocation du pays natal et de ses paysages, le déracinement, la solitude, les souvenirs d'enfance, le spleen, la tellement fameuse saudade, le destin, le fado, l'amour ou la foi religieuse, vont trouver une place de choix et nourrir la poésie des auteurs portugais. Plus récemment, Isabelle Meireles se lie au mouvement des surréalistes à Lisbonne, puis vient s'installer à Paris en 1950, où elle suit des études à la Sorbonne et aux Beaux-Arts. Thérèse Rita Lopes, diplômée de la faculté de lettres de Lisbonne et spécialiste de l'œuvre de Pessoa, a vécu exilée à Paris pendant 11 ans. Manuel Alegre, un des poètes portugais, encore vivant d'ailleurs, ainsi que Teresa Rita Lopes d'ailleurs, les plus connus et les plus lus actuellement, s'est lui aussi exilé à Paris durant les années 60. Et il a même partagé la vie de ses compatriotes émigrés dans le fameux bidonville de Champigny, dans la banlieue parisienne.
Sou imune ao teu charme, exceto quando te ris, exceto quando me olhas e engelhas o nariz. sou imune ao teu charme, exceto quando te vejo. Mas se tu estiveres quieta lá bem longe, não me afeta, eu controlo o meu desejo. Já longe vão os dias em que as tuas manias me tiravam do sério. Porque hoje eu sou imune ao teu charme, já deu bem para perceber. Desde que não apareças, nem respires ou te mexas, eu consigo te esquecer. Desde que não apareças, nem respires ou te mexas, eu consigo te esquecer. Sou imune ao teu charme, exceto quando te ris, exceto quando me olhas e engelhas o nariz. Sou imune ao teu charme, exceto quando te vejo. Mas se tu estiveres quieta lá bem longe, não me afeta, eu controlo o meu desejo. Sério. Porque hoje eu sou imune ao teu charme, já deu bem para perceber. Desde que não apareças nem respires.
Un maximum de musique, un maximum de son. 96.9,
c'est Radio Résonance.
Rencontre lusophone, c'est fini pour aujourd'hui. Mais non, on revient samedi prochain. Merci Jeff, bon week-end à vous tous, je vous embrasse.
Et oui, rencontre lusophone, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci de nous avoir écoutés et de nous être fidèles. Rendez-vous ici même samedi prochain à partir de 18h. Si vous avez aimé l'émission de ce soir, ou si vous souhaitez la réécouter, vous pouvez, hein. Vous pourrez toujours vous rendre sur le site de Radio Résonance ou sur notre page Facebook qui porte le nom de cette émission, Rencontre Lusophone, au pluriel, pour l'écouter en podcast. Pour l'instant, continuez bien sur les ondes de Radio Résonance. À tes mâches!
Aproximar. Só ponho.